Voisin avec le Centre africain d'études supérieures en gestion, le CESAG, ou l'émergence de talents au service de l'Afrique.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Nous parlons aujourd'hui des enfants surdoués, puisque nous parlons d'éducation comme chaque vendredi. Et je dirais que c'est un sujet qui nous va bien aujourd'hui. En ces temps troublés, on peut se dire que nous allons avoir plus que jamais besoin d'êtres humains d'une grande clairvoyance pour réinventer l'Europe et, qui sait, une partie du monde. Alors, qu'entend-on exactement par enfants surdoués ? Ils sont intellectuellement précoces, à haut potentiel, souvent décrits comme timides, distraits, solitaires, hypersensibles, en tout cas souvent dans leur monde. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, ils connaissent parfois l'échec scolaire, malgré leur quotient intellectuel beaucoup plus élevé que la moyenne. Comment reconnaître les spécificités de l'enfant surdoué, comment lui expliquer, comment l'accompagner, l'aider à s'épanouir. Nous allons en discuter avec nos invités. Béatrice Millettre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue spécialiste en sciences cognitives. Vous avez publié plusieurs livres sur le sujet, L'enfant précoce au quotidien, Tous mes conseils pour lui simplifier la vie à l'école et à la maison. Pas facile de simplifier la vie d'un enfant surdoué qui aime, qui aime quand même les choses compliquées, justement,
oui,
par définition.
Bien sûr, mais c'est pas si compliqué une fois qu'on le sait.
Et puis un petit guide à l'usage des gens intelligents qui ne se trouve pas très douée. Laurence Lalande, bonjour.
Bonjour.
Alors vous avez une expérience d'abord de mère de 4 enfants surdoués. Vous nous raconterez un peu comment vous avez vécu cela. Ça vous confirme en tout cas une certaine expérience pragmatique. Vous avez élaboré une pédagogie adaptée au fonctionnement cognitif des enfants surdoués. Vous avez créé une première école en région parisienne entièrement dédiée aux élèves intellectuellement précoces et puis une seconde à Sainte-Maxime dans le sud de la France qui accueille des enfants de la maternelle à la troisième, et vous publiez « Réconcilier l'enfant surdoué avec l'école » et « Au secours, mon enfant est précoce ». Nous serons également en ligne avec Tiana. Tiana a 18 ans, elle est artiste, adolescente surdouée. Elle a raconté son parcours difficile et sa solitude dans « Je suis un zèbre ». Nous serons en ligne avec elle tout à l'heure. Et quant à vous, les voisins, n'hésitez pas à poser vos questions au 33 1 84 22 71 71 et bien sûr tous vos messages sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Le message de Mamadou est intéressant. Il a 30 ans, il est à Dakar au Sénégal. Il nous dit « J'ai été repéré comme étant surdoué il y a peu de temps. Moi, je l'ai toujours su, en fait. Mon don réside dans l'écriture, plus particulièrement la poésie. À 14 ans, j'ai commencé à écrire un recueil de poèmes qui a été publié. Mon seul regret, en fait, est de ne jamais avoir été compris par les autres. Je me suis d'ailleurs toujours sentie très seule. » Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve souvent, ça, chez les enfants surdoués, Béatrice Millettre, hein, ce sentiment de solitude ?
Plus que de la solitude, je dirais, c'est le sentiment de la différence. Et c'est ça qui va créer la solitude. Donc la réponse est un peu oui. Oui, parce qu'ils ont un fonctionnement différent. Donc ils se sentent, ils le savent qu'ils sont différents et ils ne comprennent pas. Et donc si on ne leur explique pas, ils ont un peu du mal. Mmh. Alors après, heureusement pas tous. Il y en a qui vont très bien. Moi, je reçois des enfants beaucoup à mon cabinet. Et il y en a, ils sont connus comme le loup blanc dans la cour de récré. Tout le monde les connaît. Ils sont adorés par tous. Donc il ne faut pas non plus systématiser. Mmh. Mais même quand ils sont très connus, Ils se savent différents.
Connus au sens populaire, vous voulez dire,
ils se savent
différents.
Oui.
Alors, on va essayer de définir ce que sont ces enfants surdoués. Bien sûr, vous pouvez nous appeler 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins, c'est vous qui faites l'émission.
On a pas mal de questions qui sont postées sur notre fil Facebook. Daouda, qui est à N'Djamena au Tchad, nous demande comment est-ce qu'on reconnaît un enfant surdoué, à quel âge peut-on faire le constat, et puis quels sont les signes aussi pour être sûr, Béatrice Millettre.
Alors, quand on a un peu l'habitude, j'ai envie de vous dire, si j'exagérais, mais j'aime bien exagérer souvent, dès la naissance on le reconnaît. Quand on sait un petit peu les choses, quand on est un peu averti. Alors, comment on le sait ? On le sait, quand vous avez un seul enfant, c'est compliqué. Les parents me disent, bah oui, moi, je vois bien mon enfant. Tous les gens me disent, oui, mais il est futé, il est ci, il est ça. Moi, j'en ai qu'un, donc je suis pas bien. Donc, ce sont des enfants, alors souvent, qui parlent...
Très tôt.
très bien, plutôt que pas forcément très tôt. Pas forcément très tôt. Vous en avez justement qui voulant, enfin entre guillemets, c'est ce qu'on interprète, hein, voulant faire une phrase parfaite, ne parleront que très tard.
Ah oui.
Ne supportant pas justement l'imperfection.
C'est ça. Mais on dit deux, ils parlent comme un livre.
Ils parlent bien. Pas comme un livre, mais pas comme le langage bébé. Ils n'ont pas le toutou qui fait waf waf.
C'est ça. Grande précision dans le vocabulaire assez jeune.
Donc, ils ont un grand degré de vocabulaire et surtout, ils ont une grande sensibilité, alors dans tous les sens, en termes émotionnels et en termes des sens, tout simplement. Donc, ils sont capables de vous dire, là, il y a un oiseau, un machin, un truc que personne ne voit sauf eux. Donc, ils ont cette grande précision aussi et ils ont l'esprit affûté, ils posent des questions. Alors, on parle souvent de métaphysique, de chez des tout-petits de 3 ans, le monde d'où il vient. Alors, les hommes préhistoriques, les dinosaures, c'est plus à la mode, donc c'est moins fréquent maintenant, mais voilà, avec beaucoup de questions.
Mais tous les enfants curieux ne sont pas non plus des enfants surdoués, attention. Si
Après, c'est l'accumulation d'un certain nombre d'indices, de signes, voilà. Mais on a effectivement tout ça. Alors, on a aussi le signe qui est, on vous dit, ils sont anxieux de la mort parce qu'ils parlent de la mort. C'est pas de l'anxiété, c'est du réalisme. Ils savent qu'un jour, vous allez mourir, tous d'ailleurs. Et donc,
forme de lucidité incroyable.
Exactement.
Hein, à cet âge-là, en tout cas. Laurence Lalande, vous êtes mère de 4 enfants. Vous n'avez pas réellement su pour les premiers enfants que vous aviez des enfants surdoués.
Non, effectivement. Moi, je fais partie de ces personnes qui n'ont pas vu tout de suite la précocité. Je savais ce que c'était. On me parlait d'enfants surdoués. Je n'associais pas du tout le mot surdoué à mes enfants. J'aurais pu sur le premier, mais c'était mon premier. Je n'ai pas reconnu. C'était un enfant qui était brillant, qui a fait conforme à ce qu'on peut décrire dans tous les livres de l'enfant surdoué.
C'est-à-dire, juste donnez-nous quelques... Parce que vous savez, bon, si on n'a pas lu tous les livres sur les enfants surdoués,
Le profil type au quotidien de l'enfant surdoué qui fonctionne bien, lui était sage, c'était le premier de classe, tout se passait bien. Mais pour moi, tout ça, c'était normal. Et c'est arrivé effectivement au quatrième, comme si on me l'avait placé comme
quatrième
ça.
Quatrième enfant.
Où je me suis dit, celui-là, il est quand même différent. À 18 mois, c'est un enfant qui commençait déjà à lire dans son caddie de supermarché. Il a vu le mot boulangerie, B-O-U. Alors, il ne lisait que les lettres.
À 18 mois.
À 18 mois. Et là, j'ai même accusé mon fils aîné. Je lui ai dit, mais Christophe, on ne peut pas lui apprendre à lire, c'est un bébé. Et le gamin de me dire, mais non, c'est pas moi, c'est pas moi. Et j'ai continué comme ça, à ne pas penser précocité. Il est arrivé, il avait 5 ans, et un jour, en venant de l'école, il a fait ce qu'on appelle tout bêtement le spasme du sanglot, qui fait très peur à une maman. Il s'est évanoui, il est tombé par terre, il venait de monter les escaliers, il commençait à cyanoser, il était bleu. Et de médecin en médecin, dans l'heure qui suivait, bien sûr, on m'a dit, écoutez, allez voir un psychologue. Donc j'ai été voir, à l'époque, c'était Ariel Ada, qui m'a dit, votre enfant est surdoué. Et là, j'ai compris.
Alors justement, comment se pose le diagnostic? On a la question de Julie Kael, qui est à Porto Novo, au Bénin, qui dit, à partir de combien de QI, c'est-à-dire test de quotient intelligence, peut-on dire qu'une personne est surdouée? Parce que tout le monde connaît maintenant l'existence de ces fameux QI.
Oui, on connaît ce fameux test.
Il y en a plusieurs, d'ailleurs.
Ou pas vraiment. Vous avez le test de Wechsler, qui est le seul dans le monde entier. Et à peu près...
Qui est reconnu mondialement.
Voilà, c'est celui qui est dans le monde entier, traduit de tout. Voilà, et le seul, l'unique. Hein.
Donc ce test de Wechsler, qui est d'ailleurs réadapté en permanence.
Oui, il est réadapté. Oui, on sent un petit peu désabusé.
Je ne vous sens pas très enthousiaste par rapport à ce test.
Moi, je ne saurais pas définir l'intelligence, donc je suis très embêtée. Ce que je dirais, c'est que la définition...
Vous voir, les parents demandent à poser un nombre sur le QI, un chiffre.
Oui, alors le chiffre, je vais vous répondre très franchement, le chiffre c'est 125-130. Certains vous disent 130, d'autres 125, parce que...
La totalité des items, parce qu'il y a différents, différents chapitres,
Le test pour vous dire, c'est en gros, on fait du 10 sur 20. La moyenne des Français se trouve à 10 sur 20, et on dit précoce à 13,5, 14 sur 20. Voilà, donc ça veut dire, et ça donne un score de 125-130, ça revient à peu près à ça, si on cumule les notes à peu près à la louche. Maintenant, parler d'intelligence, moi je ne le dirais pas, hein. Très honnêtement, vous avez des tests de verbal, enfin de vocabulaire, et quand dans le test des adultes, on vous demande quel jour vient après lundi, moi je suis désolée, je n'appelle pas ça de l'intelligence. Et je ne pose même pas la question, parce que je n'ose même pas demander aux gens si la question est quand même un peu particulière. Et l'intelligence, moi je ne sais pas très bien la définir, c'est-à-dire qu'il y a une centaine d'années, on s'est dit, on va mesurer, comme on mesurait plein de choses, l'intelligence. On s'est dit, où sont les gens intelligents? Je caricature volontairement, mais pour poser les idées.
Vous êtes provocante un peu, là, tout de même, sur ces fameux tests.
Un peu. Mais on s'est dit, les gens intelligents sont ceux qui ont fait des études et on a transposé. Donc même si on réévalue chaque année, vous avez des questions qui sont à quoi sert de mettre un timbre sur l'enveloppe. Vous avez des choses comme ça. Donc pour moi, ce n'est pas de l'intelligence. Il y a beaucoup de culture générale. Il y a de la logique mathématique. Il y a de la rapidité de transcription qui sont des trucs comme on a dans les magazines de jeux, hein, à peu de choses près. Et de la mémoire en apprenant, en restituant des listes de chiffres. Alors très honnêtement, moi, ma mémoire ne fonctionne pas comme ça. Et je suis bien convaincue que si je dois vous restituer 8 chiffres, je vais me planter.
Néanmoins, par contre, j'ai beaucoup de mémoire. La mémoire est une composante de la précocité intellectuelle et de l'enfant surdoué. Donc, on est bien d'accord. En fait, c'est une composante de l'intelligence aujourd'hui, la mémoire.
Tout à fait. Mais pas cette forme-là. Donc effectivement, un test, c'est quelque chose qui permet de définir les choses. La question de la précocité se pose avec ce test-là. La note, c'est 125 à ce truc-là. Maintenant, je ne sais pas exactement ce qu'on mesure et on s'accorde à dire que c'est un test statistique. Et donc, ça vous dit, par rapport à la population générale, vous avez un score de 13, 14 sur 20 là-dessus. Vous vous situez sur le côté de voilà.
Ces tests, on peut les faire à des enfants de quel âge, à partir de quel âge?
Vous avez le premier qui commence de 3 à 6 ans, ensuite de 16 ans. Et,
c'est une bonne chose ou pas de faire tester des enfants si jeunes pour vous?
Dès lors qu'il y en a besoin, oui. Parce qu'un enfant aura impérativement besoin qu'on le lui dise. Et donc, quand on le sait, on n'a pas besoin de passer le test. Si les psychologues vous disent « oui, mais il y a une certitude ». Et moi, je dis, on les fait passer quand il y en a besoin pour l'école, pour que l'école puisse intervenir et mettre en place quelque chose. Mais en tout état de cause, test ou pas test, il faut le dire aux enfants. Parce que quand vous leur dites, ils vous répondent « ah, mais alors, je ne suis pas fou ». Donc, ils ont impérativement besoin de le savoir avec ou sans ce test. Maintenant, la précocité, c'est deux choses. C'est un QI ou un score de plus de 125 à ce test-là, plus un fonctionnement intuitif, au sens large. Ce qui veut dire que vous avez des gens qui ont plus de 125 à ce test, qui ne sont pas précoces au potentiel ou surdoués, ce que vous voulez, qu'on va appeler des hauts QI.
Intelligents.
Quoi. Des gens très intelligents. Et d'autres gens qui sont intuitifs, qui n'ont pas un QI de plus de 125, qui vont vous dire un peu les mêmes choses que les précoces, les surdoués, avec la fulgurance peut-être en moins, mais un fonctionnement un peu similaire, et qui ne sont pas non plus précoces. Donc il faut les deux choses. Il faut l'intuition plus le QI.
Vous êtes d'accord avec ça, Laurence Lalande, vous ?
Oui, moi je suis d'accord. Seulement, je parlerai aussi du pourcentage. Parce qu'en fait, quand on étalonne pour faire les tests, on ne garde que 2,3% de la population, qui vont donc passer le 130. Et ça, je trouve que c'est dommage, parce qu'il y a effectivement des enfants...
Le 130 de quotient d'intelligence.
Oui, hein. On ne peut pas réduire l'intelligence à un chiffre comme ça. Et le 2,3% me gêne énormément, parce que fait-on des autres?
Alors, les enfants et les adolescents ont conscience très jeune qu'ils ne sont pas comme les autres, ou pas? C'était le cas pour vos quatre enfants?
Tout à fait. Et c'est ce qui provoque souvent les mal-êtres et ces sentiments d'isolement quelque part, parce que ce sont des enfants qui sont incompris, et cette souffrance qui se met en place, je trouve que c'est dommage qu'on ne l'apprenne pas et qu'on n'entende pas assez suffisamment, et qu'on ne traite que l'échec scolaire.
Un enfant précoce est automatiquement un adulte qui va rester surdoué, ou pas d'ailleurs?
Oui.
C'est-à-dire qu'un quotient d'intelligence à 130, on le garde toute sa vie?
A priori, oui. Oui. On le garde toute sa vie parce que, si vous voulez, c'est même pas ce que je dis, la quantité d'intelligence, c'est le fonctionnement. C'est-à-dire, pour moi, un précoce, un haut potentiel, un surdoué, est-ce qu'on n'a pas de bon vocabulaire pour parler de ces personnes-là? C'est Archimède dans sa baignoire. Archimède dans sa baignoire, il a des connaissances. Et puis, il est les pieds en éventail. Alors, c'est une image d'Épinal, évidemment, c'est pas grave. Hein. Il est les pieds en l'air dans sa baignoire, il pense à autre chose, il regarde par la fenêtre, il fait ce qu'il veut. Et puis, d'un coup, il y a Eureka. Parce que les morceaux de puzzle se sont assemblés en bruit de fond dans sa tête.
C'est ça. Il invente la poussée d'Archimède.
Maintenant, vous imaginez bien...
Je ne sais plus ce que c'est, mais enfin bon, j'ai étudié ça comme tout le monde.
On ne vous le dira pas, ce n'est pas grave. et donc, imaginez le dialogue avec le penseur de Rodin ou notre fameux Descartes, qui va lui dire, dis donc mon vieux, comment tu sais, Eureka, la poussée d'Archimède, truc bidule. Ah, c'est évident, ça vient de me tomber la tête, c'est évident. Oui, mais justifie, argumente, blablabla.
C'est ça.
Et c'est ça la grande difficulté de tous ces personnes, donc enfants comme adultes, et c'est qu'effectivement, ils gardent cette particularité de fonctionnement toute leur vie. Ça veut dire, vous avez votre patron au boulot, vous êtes dans une réunion, et d'un seul coup, vous lui balancez un truc évident, tout le monde s'arrête, ne comprend rien, parce qu'évidemment, eux, ils n'en sont pas là du tout.
Et ces gens-là ne savent pas réellement, en fait, d'où vient cette fulgurance. non, d'une certaine
non,
manière.
Non, bien sûr.
Vous pouvez bien sûr nous appeler, on parle des enfants surdoués, comment les reconnaître, mais surtout comment les aider, comment les accompagner. Je vous rappelle notre numéro de téléphone, 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins, ça nous rapproche.
On est ensemble. C'est votre vie au quotidien.
Milliards de voisins
et la planète sépare.
Un enfant surdoué, c'est d'abord un enfant qui a des centres d'intérêt différents au quotidien. C'est là où c'est ça aussi la difficulté, Laurence Lalande, ou pas, pour les prendre en charge, que ça soit d'ailleurs à l'école ou dans la famille, dans leur vie quotidienne.
Alors, c'est tout à fait exact. Pour moi, ils ont des centres d'intérêt vraiment différents. Alors, différents, bien sûr, les autres enfants les ont aussi, mais c'est une question d'âge. Moi, je vois à l'école des enfants de 6 ans qui ont envie de découvrir les équations, qui ont envie de... Voilà.
Ça, ils ne réclament pas de jouer au foot, par exemple.
Non.
Parce que, le développement...
Non, il ne faut pas non plus en faire une caricature.
Mais
il y en a.
Le développement psychomoteur, en fait, quel
Mon
est-il?
Propre fils, c'était un gamin qui ne pensait qu'au foot, le quatrième. Celui qui a appris à lire tout seul, il ne pensait qu'au foot.
Donc il ne faut pas caricaturer les enfants surdoués, c'est-à-dire que ce ne sont que des cerveaux sur
pattes. Non, c'est ça, j'allais vous dire, on ne peut pas dire qu'ils sont, moi j'aime pas le terme intellectuellement précoces, parce qu'ils ne sont pas que intellectuellement. Vous avez des enfants ou même des adultes qui sont très brillants, qui sont donc surdoués, précoces, que vous voulez, mais pas dans l'intellect, qui sont tailleurs, couturiers, luthiers ou n'importe quoi. Et ce n'est pas uniquement le côté intellectuel, parce que ça nous fait le hagnon, le premier de la classe.
La main a besoin d'intelligence, il y a une intelligence de la main,
effectivement.
On est bien
mais ce que je veux dire, c'est pas juste l'intello de service, c'est ça.
Non,
c'est dans ce sens-là.
C'est exact.
Et pour vos enfants et pour les enfants que vous avez dans les écoles que vous avez fondées.
Alors, je dirais que les signes particuliers, bien sûr, il y en a, mais tout est un problème d'âge en fait sur la précocité. Quand vous voyez un enfant de 8 ans, comme je vois actuellement, qui extrait des racines carrées à la main, c'est une question d'âge. C'est pas vraiment, c'est pas quelque chose de particulier. Les autres le feront un peu plus tard.
Ce qui évidemment les place en décalage complet en permanence avec leur entourage, avec les enfants
tout
du même âge. Samuel poste ce message suivant de Lomé au Togo. Il nous dit c'est simple de reconnaître les surdoués à l'école. Ce sont les plus intelligents, mais dans la vie courante, ce qui paraît simple aux autres leur est très compliqué.
C'est vrai. Moi, comme je le disais souvent, ils ont deux mains gauches. Ils sont pas très très habiles de leurs mains. Enfin. Il y en a quand même quelques-uns qui vont être très... Oui, c'est pour ça que je mettais quand même une réserve. Il y en a quand même qui vont... Bien sûr, il y a toujours un pourcentage. Hein, quand on dit quelque chose, c'est quand même pas pour non plus la majorité. Hein, fréquemment, ce sont des enfants qui, peut-être parce qu'ils cherchent trop la perfection, vont avoir un problème avec le crayon. Ils vont pas bien le tenir. Ils vont trop appuyer. Donc, c'est pas, je dirais, psychomotricité fine, ils ne sont pas excellents, pour certains.
Ouais.
Puis ça ne les intéresse pas forcément. Est-ce que ce que dit ce monsieur, c'est très juste, ce qui est simple pour un surdoué, c'est compliqué pour les autres et inversement. Ouais. Et c'est aussi une question de motivation. Mais c'est certain que, enfin, je ne sais pas, moi, dans mon bureau, quand je vois arriver quelqu'un qui a un truc que j'ai déjà traité 50 fois... Ouais, je ne vais pas dire que je suis moins efficace, mais c'est moins rigolo, c'est moins machin. Alors, vous avez le gros problème qui vous tombe sur le coin de la cafetière, c'est beaucoup plus... je ne sais pas comment dire, c'est motivant.
Oui,
ça devient plus facile.
Ça peut être des enfants qui, par exemple, dessinent mal à l'école, tout en ayant un langage extrêmement sophistiqué pour leur âge.
Bien sûr,
parce
que le dessin ne va pas les intéresser. Par exemple, vous leur donnez les coloriages magiques à faire. Alors moi, je ne veux pas systématiser non plus après ce que je viens de dire, mais les coloriages magiques, je n'ai jamais vu un précoce que ça intéresse aussi. C'est les coloriages où vous remplissez le 1 avec un bleu, le truc, et vous faites des additions. Alors les maîtresses aiment beaucoup ça. Le précoce, il finira pas son travail justement pour pas faire ça, alors que tout le monde adore ça.
Oui, moi j'ai vu un précoce, effectivement, dans une classe. Bon, il devait dessiner, illustrer une poésie, c'était sur une maison, etc. Et il a voulu faire un dessin, le dessin d'une maison. Vous auriez vu son coloriage, c'était que des traits noirs affreux. Quand on lui a demandé, alors que les autres, c'était des belles petites maisons avec les petites fleurs, la pelouse, etc. Et lui, en fait, quand on lui a posé la question, il voulait dessiner le ciment entre les briques.
Oui, c'est ça, c'est un peu tordu, quoi, d'une certaine façon.
Oui, alors effectivement, le résultat n'était pas là, parce que le gamin, il n'avait quand même que 5 ans.
Toute la difficulté, c'est de comprendre ses enfants, hein, et puis de reconnaître leurs talents. Vous restez avec nous, Béatrice Millettre et Laurence Lalande. Vos questions, les voisins, si vous êtes confrontés aux difficultés des enfants surdoués dans votre pays, aussi paradoxal d'ailleurs que cela puisse paraître, hein, pour nous, vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 71 71. On se retrouve dans un peu plus de 3 minutes, juste après le flash sur RFI.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI, 7 milliards de voisins, un sujet éducation comme chaque vendredi. Aujourd'hui, nous parlons des enfants surdoués ou précoces. Comment les reconnaître? Comment les aider à s'épanouir aussi avec leur intelligence très au-dessus de la moyenne? Nous en discutons avec Laurence Lalande. Vous avez créé deux écoles, dont une dans le sud de la France, à Sainte-Maxime, et puis une autre en région parisienne qui accueille des enfants de la maternelle à la classe de 3e pour celle de Sainte-Maxime. Et vous êtes maman de 4 enfants surdoués. Vous avez su assez tard, d'ailleurs, finalement, que vos enfants étaient surdoués. Béatrice Millettre, vous êtes psychologue. Vous avez vous-même été une enfant surdouée, d'ailleurs, hein, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si vous avez été diagnostiquée à l'époque. Non, pas que vous soyez âgée spécialement. Mais c'est vrai que le fait de faire passer des tests relativement systématiquement, c'est assez récent, non, finalement
Je pense que c'est assez récent. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. On n'en avait peut-être pas l'usage.
Vous êtes aujourd'hui spécialiste en sciences cognitives. Et vous recevez évidemment beaucoup, vous aidez beaucoup d'enfants surdoués.
Oui.
Mais pas que. Vous pouvez nous appeler pour poser toutes vos questions au 33 1 84 22 71 71 à nos invités. Nous sommes en ligne avec Malik qui nous appelle de Dakar. Bonjour.
Oui, bonjour Emmanuel.
Malik, je crois que vous êtes parent d'un enfant précoce.
Écoutez, oui, je suis un parent d'un enfant précoce qui a une quinzaine d'années. Sa précocité a été diagnostiquée il y a à peu près 5 à 6 ans.
Oui.
Je ne dirais pas qu'on en a souffert, mais je dirais plutôt qu'on est parfois incompris parce qu'on est confronté à un corps professoral qui ne veut pas comprendre ou qui ne cherche pas à comprendre ce qui se passe.
Qu'est-ce que vous appelez diagnostiquer exactement, Malik ?
Ben, écoutez, il y a un professeur un jour qui nous a dit « Je ne comprends pas les résultats de votre enfant parce que quand il est en face de moi, je le trouve très vif et très intelligent. Vous devriez faire un test chez un pédopsychiatre. » Donc nous avons été chez un professionnel du métier qui effectivement a découvert sa précocité et qui l'a confirmé.
Oui, d'accord. Donc il n'y a pas de doute.
On arrive à mieux le suivre. On en parle en début de chaque année au corps professoral qui n'est pas forcément très à l'aise avec le sujet.
Votre enfant est scolarisé à Dakar ?
Oui, tout à fait. Bon, malheureusement, à Dakar, on n'a pas de structures qui sont vraiment adaptées pour être suivies au quotidien. Je pense qu'en France aussi, on n'est pas forcément bien outillé sur le sujet, enfin, à ce que j'ai compris.
La plupart des enfants surdoués en France, il faut le préciser, Béatrice Millettre, ne sont pas dans des établissements spécifiques.
Ils sont dans des établissements comme les autres.
Et du coup, comment ça se passe pas bien avec votre fils, scolairement déjà? Comment ça se passe?
Scolairement, il a des résultats en dents de scie. Il peut avoir 18, 19 sur 20 un contrôle. Sur le même sujet, 3 jours après, il peut avoir 5 ou 6.
Oui, c'est ça. En fait, c'est très classique.
Oui, c'est très classique. Et en même temps, à chaque fois qu'on parle des notes, j'ai envie de demander qu'est-ce que ça peut faire.
Oui, qu'est-ce que ça peut faire?
Si je vous pose la question, Malik, qu'est-ce que ça peut faire qu'un coup il est 18, un coup 5, à part pour l'estime de soi, si je peux dire. Mais fondamentalement, même si j'exagère un peu en posant cette question.
Mais finalement, votre fils, ça le dérange, en fait.
Oui, voilà, c'est dérangeant. Mais ensuite, on sait très bien que le jour où il y a un enjeu, lire son brevet, il l'aura, son bac, il l'aura, en révisant 5 minutes avant, que ses évaluations, il les réussira, sauf s'il est complètement démotivé, et ça, c'est une autre histoire, mais dans l'absolu, oui, un coup, il a 18, un coup, il a 5, mais j'ai envie de dire, comme chaque enfant, avant d'être parent d'un enfant précoce, on est parent d'un enfant tout court. Pour moi, ça, c'est une grande réalité.
Mais Malik, vous avez en fait un sentiment de souffrance chez votre fils ou surtout un sentiment de gaspillage par rapport à son immense
talent? De gaspillage, pas de souffrance, parce qu'il a le bon côté de la précocité. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout esselé, il a beaucoup d'amis, il fait du sport, enfin, c'est un enfant complètement normal. Moi, ce que j'ai envie de dire, si je peux me permettre de passer un petit message...
Mais non, vous êtes là pour ça, Malik. C'est ça qui nous intéresse.
C'est m'adresser un peu à l'humanité, pardon de parler comme ça.
Mais oui.
C'est de reconnaître ces enfants-là je veux dire, aujourd'hui, les précoces représentent à peu près 20% de la population mondiale. Au lieu de les pointer du doigt comme des montres, on devrait plutôt les écouter parce que c'est des gens qui ne peuvent apporter que du bien. Ils ont de la lumière en eux.
Ce serait peut-être mieux pour diriger le monde, c'est ça, par rapport à certains politiques qui pourraient remplacer.
Je suis peut-être un peu passionné sur le sujet, mais bon, c'est ce que je vois. Oui, je pense plutôt qu'il y a du gaspillage à son niveau.
Il y a deux choses.
Sur la notion de gaspillage,
moi, il y a deux choses qui m'interpellent dans ce que vous dites. Il y a le côté lumineux de ces êtres humains-là, ce qui est vrai. Parce que ce sont toujours des gens qui ont des valeurs. Et ça, c'est fondamental. Donc, ça, je suis d'accord. Ils ont de la lumière en eux et il faut le reconnaître. Maintenant, sur le gaspillage. Alors, moi, je suis toujours très embêtée parce que, oui, on parle d'enfants et d'adultes plus intelligents. Et c'est ça qui me chiffonne parce qu'après, sous prétexte qu'ils sont plus intelligents, on leur en demande plus. Et moi, je dis, mais un enfant précoce, s'il a besoin de 3 minutes par jour pour faire ses devoirs, s'il révise son bac en 5 minutes une semaine avant d'y aller, qu'il en plus décroche une mention, pourquoi tout au long de l'année, parents, enseignants et tout le monde d'ailleurs, on leur demande du 20 sur 20? Et ça, moi, ça me passe au-dessus de la tête.
Oui. Non,
parce que ça n'a pas de sens.
C'est compliqué pour
à
un
condition
parent,
qu'ils ne s'ennuient pas, évidemment, et qu'il y ait autre chose pour les nourrir. Mais ce n'est pas à l'école qu'ils vont se nourrir. On est bien d'accord.
Laurence Lalande, moi, j'interviens parce que pour moi... Attendez, Malik. Laurence veut s'exprimer. Vous allez vous exprimer.
Moi, je travaille avec dans l'éducation. Et je trouve dommage pour ces enfants-là le système des notes. D'abord parce que ça ne reflète pas leur véritable intelligence. On note parce que c'est très subjectif, en fait. L'enseignant, quand il note, il attend une réponse. Donc, et il n'attend pas celle forcément du surdoué.
Oui. Dans les écoles que vous avez créées, il n'y a pas de notes.
Non, il n'y a pas de notes. Il n'y a pas de notes parce qu'on
considère que pas besoin,
les enfants qui fréquentent notre école sont des apprenants. On est là pour leur apprendre. On n'est pas devant eux, on est derrière eux. On les aide, on les accompagne, on les pousse. Mais jamais, 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 on va se placer devant pour les tirer. On va être là pour voir si cette notion-là est comprise. Vous voyez, par exemple, je vais prendre l'idée de la dictée. La dictée, l'enseignant, quand il la corrige, elle est tachée de rouge. La dictée, elle peut valoir moins 4, moins 8. Mais je trouve ça lamentable.
Bah pour tous les élèves,
c'est vrai pour tous les enfants. Mais il y a quand même un travail qui est fait. Je ne parle pas forcément du surdoué, je donne juste un exemple. Il y a un travail qui est fait par l'enfant, il n'est pas respecté. Nous, chez nous, on a appris à écrire au dos de la copie. Voilà, revoir les accords, revoir la conjugaison. Mais jamais on ne va biffer leur dictée. Jamais on ne va leur... Et bien souvent,
vous
on ne rend pas
le devoir. Vous appliquez des méthodes qui pourraient d'ailleurs être tout à fait profitables à tous les enfants.
L'enseignant qui devient un éducateur, c'est qu'avec cet enfant-là, il faut revoir les pluriels, il faut revoir la conjugaison. Et on ne va pas le taxer pour ça.
Aujourd'hui, Malik, votre fils qui a 15 ans,
alors,
qu'est-ce que vous avez aménagé pour lui? Comment vous vous en sortez finalement avec ses notes en dents de scie, son intelligence fulgurante?
Nous, on ne lui met pas la pression par rapport aux notes. On lui demande juste de... d'être dans une moyenne correcte. Même un 11 nous satisfait, nous, il n'y a pas de souci. Nous, on a conscience que c'est plutôt la méthode qu'il faut revoir de la part des professeurs.
Et comment vous faites pour nourrir son intelligence? Est-ce que lui-même parvient à se nourrir tout seul par rapport à ses très fortes
demandes? On lui a fait comprendre que parfois, il faut couper. S'il n'arrive pas à se concentrer au bout d'une heure, je lui dis, tu vas faire autre chose. Va t'aérer l'esprit pendant 15 minutes et tu reviens, tu seras encore plus performant. Parce qu'ils ont besoin de ça, les précoces. Ils ont besoin de faire autre chose pour mieux rebondir sur un sujet qu'ils sont en train de traiter. Ça, c'est à la maison. Malheureusement, à l'école, ce n'est pas forcément faisable.
Est-ce que pour vous, en tant que père, vous êtes très touchant dans votre témoignage? Est-ce que c'est un parcours du combattant d'accompagner ce fils extrêmement intelligent, ou c'est aussi extrêmement... Ça rend heureux de côtoyer cette lumière-là?
Alors, je vais la faire très courte. Lorsque j'ai su qu'il était surdoué, je me suis moi-même intéressé beaucoup au sujet. Et je me suis rendu compte au fil des moments que j'étais peut-être de ces gens-là, si je peux m'exprimer ainsi. Donc effectivement, je suis moi aussi précoce. Je l'ai découvert à un âge avancé, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est le grand boulevard qui est ouvert devant moi. Depuis que j'ai mis un mot sur ma souffrance, aujourd'hui, la vie n'est plus du tout pareille pour moi. Et je ferai tout pour que mon fils ait le même sentiment et qu'il soit heureux au même titre que moi aujourd'hui.
Merci beaucoup de nous avoir appelé, Malik, en direct de Dakar. Merci infiniment. Nous sommes au téléphone avec une jeune fille que nous avons contactée qui publie « Je suis un zèbre », un très beau livre. Bonjour Tiana.
Bonjour.
Tiana, vous avez 18 ans. Vous vivez à Marseille. Vous avez raconté votre histoire donc dans un récit autobiographique dans Je suis un zèbre. Est-ce que vous pourriez nous dire comment et quand on a posé l'étiquette enfant surdoué sur vous?
Alors moi, j'avais 14 ans quand j'ai été étiquetée surdouée. Et j'ai eu un parcours assez chaotique avant ça. En fait, je souffrais de dépression, je souffrais d'énormément de mal qui m'ont conduit de médecin en médecin et dans une errance de diagnostic. J'ai été en hôpital psychiatrique où j'ai été prise en charge par énormément de médecins, mais aucun n'a jamais été capable de dire ce qui allait ou ce qui n'allait pas. On a été jusqu'à me mettre l'étiquette de schizophrène, avec le traitement qui allait avec, un traitement extrêmement lourd qui n'était pas adapté à moi. Et c'est après de très longues années, très douloureuses à vivre pour moi et ma famille, qu'on a rencontré Jeanne Sauvachin, qui a été la première en fait à émettre l'hypothèse de surdoué. Et après test, il s'est avéré que c'était bien ce que j'étais.
Une psychiatre, hein. Je ne sais plus si elle est psychiatre ou psychanalyste, psychologue. Oui. Tiana, alors vous avez été très rejetée, hein. Vous avez été victime de harcèlement scolaire. Dieu merci, ce n'est pas le cas de tous les enfants surdoués, mais comme ils sont différents, ils peuvent déclencher des réactions parfois violentes de la part de leurs camarades. Vous avez eu, comme vous le dites, un parcours très chaotique. Vous avez pendant un moment travaillé comme fleuriste. Parce que vous, d'ailleurs, vous dites dans votre livre que finalement de travailler avec vos mains vous a fait du bien.
J'ai beaucoup de mal à rester immobile derrière un bureau, juste à réfléchir. J'ai plutôt besoin de bouger, de créer des trucs avec mes mains. Même s'il s'agit juste d'écriture, j'ai besoin que mes mains bougent pour créer quelque chose.
Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes exactement par rapport à vos angoisses existentielles, par rapport à vos émotions qui vous submergent et par rapport à cette intelligence qui prend parfois trop de place aussi en vous-même?
Par rapport à mes angoisses, mes angoisses ont toujours été présentes avec moi depuis que je suis enfant. Ce sont des angoisses extrêmement, disons, ancrées en moi, des angoisses sur la peur de la mort, sur la peur de l'autre, sur la peur du monde extérieur. Donc, si aujourd'hui j'ai appris à vivre avec, peut-être à les appréhender de manière différente, elles sont toujours présentes avec moi malgré tout. Et je ne pense pas que ce sera quelque chose dont je pourrais me débarrasser un jour. Mais aujourd'hui, elles ne m'empoisonnent plus la vie, elles ne m'empêchent plus de vivre comme ça le faisait quand j'étais beaucoup plus jeune.
Alors justement, aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes à 18 ans?
Alors aujourd'hui, j'ai intégré l'école de la seconde chance parce qu'à vrai dire, je ne sais pas exactement où j'en suis moi-même.
Scolairement, vous en êtes où?
J'aurais pour projet d'intégrer une école sur Toulouse, de travailler pour gagner un petit peu d'argent pour pouvoir la payer. Donc un parcours en soi tout à fait normal pour une jeune fille de 19 ans.
Et cette école que vous projetez d'intégrer à Toulouse, c'est une école de quoi?
C'est une école de manga, donc c'est peut-être un petit peu moins normal.
Pourquoi?
Je suis passionnée par ça depuis que j'ai, disons, 10 ans.
Ouais. Donc vous projetez dans un futur d'artiste?
Oui, si possible. Ben, j'ai toujours été attirée par le côté artistique, que ce soit la musique, l'écriture, peut-être le dessin un peu moins, parce que je n'ai jamais pris le temps de m'y pencher. Mais j'adore tout ce qui touche à l'art, à la création et à l'imagination.
Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous, Tiana. On va vous laisser retourner en cours, hein, parce que je crois que vous avez des journées bien chargées à l'heure actuelle. Et puis, bon courage pour ce parcours hein, qui a été difficile, mais qui semble être plutôt... les difficultés semblent davantage derrière vous. Béatrice Millettre, comment est-ce que vous réagissez par rapport à tous ces témoignages qu'on a entendus?
Alors moi, il y a une chose que je voudrais dire, c'est que c'est pas parce qu'on est reconnu précoce ou surdoué, ce qu'on veut, qu'on ne peut pas avoir de pathologie. C'est pas ça ne prémunit pas de se casser la jambe parce qu'on est autre chose. On peut tout à fait être précoce et schizophrène, on peut tout à fait être ceci et cela.
Oui, précoce et dépressif.
Voilà, tout à fait.
On est bien d'accord.
C'est pas un garant contre tout type de pathologie. J'ai rencontré des gens qui étaient les deux, clairement. Maintenant, c'est vrai que souvent, les faux diagnostics existent, et ceux-là en particulier. Donc ça, c'est la première chose que je voudrais dire, c'est qu'on peut quand même, parce que je reçois des gens, ils me disent « non, je ne peux pas l'être parce que je suis surdouée ». Non, on peut quand même l'être, on peut quand même l'être. Après, ça me fait réagir sur le fait qu'on me pose souvent la question du métier adapté à un précoce. Et en fait, je réponds à chaque fois, c'est celui dans lequel vous serez bien. Il n'y a pas une voie plus qu'une autre. Mais oui, comme tout le monde. Comme tout le monde. Et il n'y a pas une voie plus qu'une autre. Il n'y a pas quelque chose de mieux qu'autre chose. Il y en a qui sont bien en étant leur propre patron, d'autres pas. Ça, c'est une autre chose qui me faisait réagir. Et l'autre chose, c'est qu'effectivement, j'ai cette chance aussi de recevoir beaucoup d'adultes qui découvrent à l'âge adulte qu'ils sont au potentiel. Et quand je leur demande...
Parfois, quand leur enfant est diagnostiqué...
Oui, ou même quand ils n'ont pas d'enfant, d'ailleurs, ils arrivent chez nous et bon, voilà, ils s'avèrent qu'ils sont au potentiel. Et ils n'ont pas, dans la grande majorité de tous les adultes que je reçois, vraiment dans cette grande majorité, ils n'ont pas ce parcours chaotique. Ils n'ont pas ce parcours chaotique, ils n'ont pas... Donc je sais que les statistiques sont là, que les enfants d'aujourd'hui, précoces, certains vont mal. Donc moi j'insiste beaucoup là-dessus, je n'ai pas les statistiques. Mais je sais que les adultes que je reçois ont été des enfants, alors différents, avec des questionnements, mais qui n'ont pas été dans
alors,
ce chaos.
On a le témoignage d'Hervé qui nous écrit, qui est au Togo, qui nous dit « Les surdoués échouent le plus souvent parce que leur environnement ne parvient pas à les comprendre pendant les cours. Par exemple, quand l'enseignant se répète un petit peu trop en explication dans le souci de se faire comprendre, l'enfant surdoué, lui, a déjà tout compris, donc il est sacrifié, donc il s'ennuie, etc.
Oui.
etc. D'où ma question, est-ce qu'il faut un enseignement adapté pour ces enfants-là ?
Alors, moi, je vais vous dire, je pense que je fais un peu... Enfin, je ne suis pas tout à fait du même point de vue que mes collègues sur la question. Moi, je réponds clairement non. Je réponds clairement non, parce que pour moi, et encore une fois, j'ai cette chance de l'expérience des adultes, que je reçois beaucoup, et qu'on ne peut pas les mettre à part de la société. Ce sont des gens, comme tout le monde, déjà, moi, je ne supporte pas le terme de zèbre. Je connais très bien Jeanne, qui est une copine, Jeanne Chauffachin, qui a créé ce concept-là. Je ne le supporte pas. Ce ne sont pas des animaux, ce sont des enfants, ce sont des êtres humains, ce sont pas des zèbres, ce sont des gens, tout simplement. Donc déjà, moi, il y a ça qui me hérisse le poil. Et puis, il faut leur apprendre à vivre tous ensemble. Et ce que je sais de beaucoup d'écoles de précoces, c'est qu'on a mis l'accent sur la quantité d'intelligence, où on leur demande d'être plus intelligents comme ils le sont et de faire plus de travail, si je peux dire, et on leur apprend pas à tirer parti de ce fonctionnement particulier qui est le leur.
On va solliciter leur intelligence, en tout cas.
Oui, mais pas de la façon...
Qui est en libre-service.
Exactement. Je ne suis pas d'accord. C'est vrai qu'il y a des écoles pour qui se disent enfants pour enfants précoces, etc. Moi, je ne vous rejoins pas là-dessus. Je pense qu'il faut des endroits où certains enfants surdoués puissent se reconnaître. La reconnaissance, enfin la réussite...
Vous parlez d'une forme de bienveillance pédagogique.
De bienveillance, bien sûr. Ce sont quand même des enfants qui apprennent différemment des autres. Leur fonctionnement cognitif est différent. Ils sont des enfants qui travaillent avec leur cerveau droit plus qu'avec le gauche. Et il faut l'utiliser.
Et surtout qu'ils vont beaucoup plus vite.
Il faut pouvoir mettre en place des stratégies d'apprentissage qui sont différentes. On ne peut pas donner des concepts aux enfants surdoués comme on les donne...
Non, bien sûr, c'est pas ce que j'ai dit. Ce que je dis, c'est qu'il faut donner au prof, faut que l'enfant précoce puisse donner au professeur ce qu'il attend, virgule, à sa propre façon.
Oui, mais peut-être. Un enfant qui va deux fois plus vite que les autres, il fait quoi pendant que le prof continue à faire ?
On oublie justement.
On lui donne d'autres activités.
C'est pour ça que je voulais terminer. On oublie son épanouissement. Effectivement, créer des écoles pour enfants précoces, c'est aussi les autoriser à s'épanouir. C'est être ce qu'ils sont réellement. C'est pouvoir grandir en étant bien. On grandit mal quand on va mal.
Alors, je vous interromps parce qu'on a des auditeurs qui veulent absolument s'exprimer. Il faut leur donner la parole. Nous sommes en ligne avec Edmond qui nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Edmond.
Bonjour.
Soyez le bienvenu. Vous êtes en région parisienne.
Oui, tout à fait. Oui, je suis avec attention ce débat. Et je témoigne aussi d'une certaine émotivité parce que quelque part je me sens d'une part concerné. En même temps, je livre ce témoignage parce que je pense que on parlait d'effet d'isolement. Je crois que ce qu'a besoin avant tout l'élève ou l'auditeur qui est catalogué comme surdoué, c'est trouver une alternative à son ressentiment de vivre un isolement. Et cette alternative, elle occupe, en tout cas dans mon expérience et dans mon témoignage, elle m'a occupé une grande partie de ce que je vivais, de mon ressenti.
Un isolement, ressenti par vous ou de fait, comment vous avez grandi? Vous avez été scolarisé dans des écoles avec les autres enfants, Edmond, en quelques mots?
Oui, tout à fait, oui. Un enseignement classique, peut-être trop verticalisé d'ailleurs. Mmh. Et parce que dans le système qui est avant tout normatif, il est délivré un enseignement standardisé. Ouais.
Vous avez souffert de ce système normatif, du coup, vous, en tant qu'enfant surdoué à l'époque?
Ah non, moi, je ne le vivais pas, par chance. C'est pour ça que j'ai suivi avec attention ce débat. Je n'ai pas vécu ça comme une souffrance. J'ai vécu ça comme un challenge.
D'accord.
Et je me suis dit, par chance, sans doute, et j'ai bénéficié d'un encadrement de professeurs qui ont su détecter, qui ont su l'accompagner.
Ouais. Donc vous n'avez jamais été en échec scolaire?
Si, paradoxalement. Si, parce que je me suis mis moi-même une propre barrière aux effets des qualificatifs que je recevais, en me disant, en étant en quelque sorte sous la typologie du surdoué, j'avais des professeurs qui me disaient « est capable de bien faire ». Je me souviens d'un professeur qui a eu 19 de moyenne qui m'a dit « peut mieux faire ».
Oui, c'est assez déplacé comme commentaire.
L'échec scolaire survient a priori, vers la quatrième, troisième. Pourquoi vers la quatrième, troisième, selon les programmes, etc., etc. Alors, il y en a aussi avant, mais la grande majorité, qui ne sont pas tous les précoces en échec scolaire, d'ailleurs, vient à cette époque-là. Parce que c'est le moment où on vous demande, en gros, hein, si je suis encore une fois plus simpliste, mais d'expliciter votre raisonnement et de le justifier. Donc, si je reprends le principe de l'intuition chez un enfant, il a le résultat qui lui tombe de la tête, il ne sait pas l'argumenter. Et c'est à partir de la quatrième, troisième, où c'est là où on va lui demander de justifier son raisonnement. Donc si en amont, vous lui avez appris tout ça, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'échec scolaire. Si vous lui apprenez à commencer par la fin et ensuite à remonter pour dérouler
son
fil...
Encore faut-il que les parents soient au courant de cela, qu'ils soient aidés pour
bien,
cela,
c'est bien tout là-dessus que l'enjeu, pour moi, se pose, parce qu'il faut penser à l'avenir de ces enfants. Un jour, ce sera des adultes. Et si ça, on ne leur a pas appris, si on leur a appris qu'ils sont plus intelligents, ce qui est vrai... Et que les autres sont moins intelligents, moi je suis désolée, ça fait les adultes que je reçois qui ne sont pas du tout adaptés et qui vont très mal. Et la seule solution, c'est de leur apprendre ce fonctionnement-là.
Donc leur dire, tu es plus intelligent, mais tu as un fonctionnement différent donc tu vas travailler différemment.
Et c'est ce que font d'autres pays.
Edmond, merci beaucoup de nous avoir appelés. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous redonner la parole, mais Chérif voudrait aussi intervenir à Paris. Bonjour Chérif.
Oui, bonjour.
Vous avez été, je crois, diagnostiqué surdoué très tard, à l'âge adulte, il y a très peu de temps.
À l'âge de 30 ans, j'avais envie de 33 ans.
Oui. Vous avez souffert, enfant, pendant votre scolarité, de cette différence-là?
Énormément, d'autant plus que je suis issu d'une famille de 4 garçons qui réussissaient tous bien à l'école. Donc, on passait tout le temps comparé à cela. Quelque part, on pointait du doigt mes échecs scolaires.
Oui.
Parce que, in fine, c'est parce que finalement, ce que je faisais ne m'intéresse pas. Par contre, à partir de l'université, bon, j'ai fait des études d'ingénieur, j'ai fait polytechnique, et c'est le genre de choses qui m'ont permis de m'épanouir, parce que j'avais trouvé ce que j'avais envie de faire.
Attendez, vous dites que vous avez été en échec scolaire, mais enfin, vous avez une formation d'ingénieur, c'est bien ça?
Alors, échec scolaire, c'est par rapport justement aux personnes auxquelles on me comparait. Mes frères, qui étaient toujours majeurs de leur classe, et moi, c'était à peine si j'avais la moyenne.
D'accord.
Le pointage bivouac.
Mais vous dites que vous avez fait Polytechnique?
Oui.
En France?
Oui.
D'accord. Donc vous n'avez pas eu spécialement des problèmes scolaires?
C'est-à-dire que le précoce est capable de déplacer des montagnes quand ça l'intéresse et de ne rien faire quand ça ne l'intéresse pas.
Oui, vous avez entendu le commentaire
Exactement.
Oui, c'est ça.
C'est là où,
donc à la dernière minute, vous avez déplacé la montagne, c'est bien cela?
Oui, parce qu'à un certain moment, si vous voulez, il y a un orgueil qui se réveille et on se dit, mais in fine, peut-être que je peux faire plus. Mmh. Et surtout, ce qui se passait, j'avais des centres d'intérêt qu'on tentait plutôt d'éloigner de moi.
Mmh. Comme par exemple
tout ce qui était technique, bricolage, j'ai essayé de comprendre les mécanismes des choses et de ce qui m'intéressait. Et par contre, la lecture, c'est un truc qui ne m'a jamais intéressé. Alors, dès les bases flashs, par comparaison...
Ce qui veut dire que, par exemple, parce qu'on a l'idée reçue souvent que les enfants précoces sont des lecteurs très précoces, ce n'était peut-être pas votre cas, si je comprends, Chérif.
Ah,
Oui, vous étiez plutôt apte à démonter le camion qu'on vous avait offert.
Exactement. Et je vais vous dire comment ça s'est passé.
Et merci, bravo, parce qu'on nous dit souvent que les précoces sont maladroits. Et ben vous êtes la preuve vivante que ça n'est pas vrai. Bravo et merci de le dire.
Chérif, si vous aviez un message à faire passer vraiment en quelques mots, je vous demande d'être concis, mais ça devrait être à votre portée.
Le message qui est très simple, c'est écouter les enfants. N'essayez pas de les emmener dans quelque chose qui n'est pas leur rôle.
Ouais.
Ça provoque des souffrances. Et si vous êtes en difficulté, les parents, essayez de prendre. Mmh. Moi, ça ne s'est pas passé avec moi. Aujourd'hui, je suis en fait un solitaire. Mmh. Et aujourd'hui, c'est aussi des réproches qu'on me fait.
Ouais.
Parce que je suis très bien avec.
Ouais. Bah, écoutez, en tout cas, là, vous savez communiquer, chérif. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Merci aussi pour ce beau message. Écoutez les enfants surdoués. Peut-être aussi leur faire davantage confiance.
Il faut les écouter, il faut leur faire confiance. Et je rejoins l'idée du gâchis tout à l'heure. Ça, c'est un truc d'adulte. Hein. C'est nous qui trouvons les parents que c'est du gâchis parce qu'on sait qu'ils peuvent faire plus. Eux, finalement, moi, très honnêtement, je trouve qu'un enfant, s'il peut travailler 2 minutes par jour et être heureux dans ses baskets, mais il faut le laisser. C'est un enfant.
Oui, enfin, c'est pas si simple que ça non
c'est
plus
pas
au,
si
au quotidien,
je
Laurence
veux pas
Lalande.
Non plus paraître utopiste. Mais...
Je vous laisse le mot de la fin, Laurence Lalande.
Moi, je dirais que c'est vrai que. On parle beaucoup d'échecs pour l'enfant précoce, et c'est dommage. C'est vrai, quand on entend tous les témoignages, il y a quand même une certaine souffrance aussi. Et pour moi, ça vient simplement d'une prise en charge qui n'est pas adaptée. Voilà. Moi, je vois beaucoup d'enfants précoces défiler dans mes écoles. Et ce sont des enfants qui s'épanouissent, qui sont eux-mêmes et qui réussissent. Et on ne force pas sur les apprentissages, ça vient d'eux-mêmes, parce qu'on les laisse aller à leur rythme, à leur façon d'être. Ils ont effectivement des matières, parfois, où c'est souvent le français, ça pêche un peu. Vous voyez, les mathématiques, c'est fulgurant. Mais ce sont des enfants qui savent avancer si on les laisse aller à leur rythme.
Et qu'on leur fait confiance. Merci si en tout confiance, cas à toutes les deux. Laurence Lalande, alors on a noté tous les titres des ouvrages que vous avez publiés sur notre page, sur le site RFI.fr, à la page 7 milliards de voisins. Et Béatrice Millettre, c'est la même chose. Vous êtes psychologue spécialiste en sciences cognitives. Merci à vous. Merci à toute l'équipe. Cécile Lavolo, Camille Nérand, Romain Dubrac, Didier Cherouz. Lundi, 7 milliards de voisins. Les prix de l'Internet en Afrique. Pourquoi la facture est si salée?
C'était 7 milliards de voisins avec le CESAG, l'institution de formation en management sous tutelle de la BCEAO. Autour de la question.